Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 20 novembre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Téhéran a dénoncé les allégations des États-Unis et des pays européens au sujet de la sécurité des voisins de l'Iran. Les drones yéménites ont frappé les villes de Najran, de Jizan et d'Abaha, situées au sud de l'Arabie saoudite. Et au Burkina Faso, des manifestants bloquent un convoi de l'armée française. C'était les principaux titres. En voici le journal. Téhéran a qualifié vendredi d'illégitime la déclaration la veille des États-Unis et des pays européens qui ont assuré aux voisins de l'Iran que leurs intérêts sécuritaires seraient pris en compte lors des négociations à venir sur le nucléaire iranien. Paris, Berlin, Londres et Washington ont condamné jeudi les activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région, y compris l'utilisation et le transfert de missiles balistiques et de drones à des milices alliées, ont affirmé soutenir les voisins de la République islamique d'Iran à faire face aux préoccupations plus larges de la région en matière de sécurité. Cette réunion et cette déclaration sont tellement artificielles et illégitimes qu'elles ne valent pas la peine d'y répondre, a réagi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans un communiqué. Le gouvernement des États-Unis, responsable de la situation actuelle en se retirant de l'accord sur le nucléaire, tente une fois de plus de provoquer une crise et de mener une campagne de propagande contre l'Iran, a-t-il dit. Le diplomate iranien a aussi répondu aux propos tenus par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui avait dit que l'Iran devait montrer sa volonté d'avancer dès la reprise des négociations sur son programme nucléaire le 29 novembre. M. Khatibzadeh a condamné ces propos qu'il a considérés comme un moyen d'essayer d'influencer l'AIUA, affirmant que de tels commentaires indiscrets ne servaient qu'à ternir la réputation de l'agence en tant qu'organisation technique et spécialisée des Nations Unies. Vendredi, le chef de la diplomatie française a dit « Je crois comprendre que les États-Unis sont prêts à revenir dans les négociations là où on les avait laissés en juin, de manière à les conclure rapidement. » Nous apprécions dès le 29 et dans les jours suivants si c'est aussi la volonté iranienne. Des pourparlers suspendus doivent reprendre à Vienne le 29 novembre entre Téhéran et l'Allemagne, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les États-Unis doivent participer de manière indirecte aux discussions. Les drones yéménites ont frappé samedi 20 novembre à Lop les villes de Najran, de Jizan et d'Abha situées au sud de l'Arabie saoudite. Les frappes ont perturbé le trafic aérien dans plusieurs aéroports de l'Arabie saoudite. Il y a deux jours, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sali, a mis en garde les agresseurs saoudiens contre une riposte à leurs récentes attaques. À noter que les avions de chasse de la coalition d'agression saoudienne ont récemment bombardé à plus de 65 fois les différentes régions du Yémen. Le vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement de salut national a déclaré que les pays agresseurs avaient lancé un nouveau tour d'attaque militaire via l'air et le sol contre les différentes régions du Yémen, dont la province de Hodeïda. En Irak, un convoi logistique de la coalition américaine, soi-disant anti-Daesh, a été la cible vendredi 19 novembre d'une bombe placée en bordure de route dans la province de Dhiraj, dans le sud de ce pays. L'explosion n'a fait aucune victime. L'Irak a démenti les informations selon lesquelles les États-Unis auraient prolongé la période de leur présence militaire en Irak au-delà du 31 décembre 2021. Tahsin al-Khafaji, porte-parole du commandement irakien des opérations conjointes, a confié à l'agence de presse officielle irakienne INA que les informations sur le report de la date limite de retrait des troupes américaines d'Irak étaient inexactes et incorrectes et que le départ prévu des troupes américaines le 31 décembre n'était pas modifié. Le commentaire de M. al-Khafaji est intervenu après que les médias ont indiqué que les forces américaines ne quitteront pas l'Irak et la Syrie, malgré les arguments selon lesquels Washington devrait se désengager du Moyen-Orient après son retrait rapide d'Afghanistan. En juillet, les États-Unis et l'Irak ont tenu une session de dialogue stratégique au cours de laquelle les deux pays sont convenus de retirer toutes les troupes américaines d'Irak d'ici le 31 décembre 2021. Deux enfants sont tombés en martyr et deux autres ont été blessés vendredi soir dans l'explosion d'une mine terrestre abandonnée par le réseau terroriste Daesh dans la ville de Palmyre en Syrie. La Syrie a affirmé l'importance que le soutien international apporté aux efforts de déminage se base sur les dispositions du droit international en coordination avec les autorités nationales syriennes concernées, faisant savoir que les risques des mines abandonnées par des terroristes menacent toujours la vie des Syriens et entravent le retour des personnes déplacées à leur zone. Dans un communiqué qu'il a lu vendredi 19 novembre, lors de la 19e réunion des États parties de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles, l'ambassadeur permanent de la Syrie auprès du Bureau des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Houssam Eddin Alla, a indiqué que le problème des mines et des charges explosives menace toujours la vie des milliers de personnes, notamment les enfants et les femmes, et entrave les efforts faites pour le retour des personnes déplacées à leur zone d'habitation. La République arabe syrienne accorde la priorité à la question du désamorçage des mines et des charges explosives abandonnées par les terroristes pour qu'elles protègent ses citoyens et assurent leur retour sûr à leur zone d'habitation, a réitéré le responsable syrien. Les réseaux terroristes qui se déploient dans la banlieue d'Idlib ont attaqué à nouveau les villages et les localités sûres dans la banlieue de Hama en visant par des roquettes les maisons des habitants au village de Djourin. Le correspondant de Sana, l'agence presse officielle syrienne Hama, a fait noter que les réseaux terroristes qui se déploient dans la banlieue d'Idlib avaient visé à 5 roquettes les maisons des citoyens dans la localité de Djourin, aux plaines d'Al-Rab, dans la banlieue nord-est de Hama, ce qui a fait des dégâts matériels dans les maisons et les propriétés des habitants de cette région. Depuis le 18 novembre, plusieurs milliers de personnes manifestent à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina Faso. Elles s'opposent au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin et réclament à l'appel de la coalition des patriotes africains le départ des troupes françaises du Burkina. Armée française dégage, libérez le Sahel, plus de convois militaires d'invasion et de recolonisation français, peut-on lire sur des écriteaux et banderoles brandies par des manifestants assemblés à l'entrée de Kaya, selon des photos et vidéos diffusées. Les manifestants ont entonné l'hymne national face au convoi français de plusieurs dizaines de véhicules qui étaient toujours bloqués à Kaya ce 19 novembre, selon les manifestants. En provenance de Côte d'Ivoire et à destination du Niger, l'avancée du convoi avait déjà été bloquée les 17 et 18 novembre par des manifestants à Bobo Dioulasso, puis dans la capitale Ouagadougou. Dans la capitale, les forces de sécurité burkinabé ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Selon Roland Bayala, porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso, qui a appelé à ces manifestations. Crise entre l'Algérie et la France, le Drian s'exprime à nouveau. les relations entre l'Algérie et la France sont fortement dégradées depuis près de 2 mois, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les déclarations du président français Emmanuel Macron, qui avait accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Le président français, dont les propos avaient été rapportés début octobre dernier par le journal Le Monde, s'était également interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française, ce qui a déclenché la colère d'Alger, qui a rappelé son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français ralliant le Sahel. Début novembre, dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré qu'il ne fera pas le premier pas pour tenter d'apaiser les tensions provoquées par des propos critiques d'Emmanuel Macron sur la nation algérienne. Quelques jours plus tard, le président français avait regretté les polémiques et les malentendus avec l'Algérie et assuré avoir le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire. Et ce vendredi 19 novembre, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est à nouveau exprimé sur la crise entre l'Algérie et la France. Dans un entretien publié dans le journal Le Monde, Jean-Yves Le Drian a été interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas répondu directement, a rappelé que le président Macron a pris des initiatives fortes, notamment dans le domaine sensible de la mémoire, et que l'Algérie et la France ont des liens ancrés dans l'histoire. Mardi à l'Assemblée nationale française, Le Drian a fait savoir que des efforts ont été engagés afin de rétablir les conditions d'une relation apaisée avec l'Algérie. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Première base d'Israël au Maroc. Le Maroc se prépare avec Israël à la construction d'une base militaire près de la ville Melilla. Après l'accord d'acquisition de drones israéliens et le projet de fabrication de drones kamikazes, Rabat et Tel Aviv se préparent à construire une base militaire au Maroc, indique le journal espagnol, ajoutant que parmi les zones envisagées pour cette installation du nouveau complexe, il y aurait la ville d'Afsou, à 50 km de Melilla, près de l'aéroport de Mont-Arit. Une annonce qui intervient quelques jours avant la première visite du ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, au Maroc, prévue les 24 et 25 novembre, mais qui pour l'instant n'a été confirmée par aucune source officielle. Benny Gantz devrait également s'engager à fournir au Maroc le système avancé de défense aérienne Dôme de fer, actuellement fabriqué pour les États-Unis, indique InfoDefensa, site espagnol spécialisé dans les affaires militaires et stratégiques, notant que de nouveaux accords seront signés entre Israël et le Maroc pour l'installation au Maroc d'une usine de fabrication de drones militaires, notamment des drones kamikazes. Israël et le Maroc travaillent déjà sur un projet qui conduira Rabat à fabriquer des drones militaires. Dans ce cadre, il est prévu que la semaine prochaine, lors de la visite de Gantz, de nouvelles alliances soient signées pour développer au Maroc une industrie liée à la production de munitions de marottes, également connue sous le nom de drones kamikazes. L'accord d'entente, qui sera signé par les responsables marocains et israéliens lors de la réunion prévue la semaine prochaine à Rabat, comprend également la construction d'une base militaire commune au sud de Melilla, selon El Espagnol. L'article souligne également que parmi les zones envisagées pour cette installation du nouveau complexe, il y a la ville d'Afsou, à 50 km de Melilla, près de l'aéroport de Mont-Arit. Selon le journal espagnol, le projet de construction de la nouvelle base a suscité des inquiétudes parmi les responsables espagnols qui la considèrent comme une menace pour la sécurité de la ville de Melilla. Citant des experts espagnols, le journal souligne que des responsables du renseignement étranger ont mis en garde contre la mise en œuvre du projet qui va au-delà des accords de compromis avec les pays arabes connus sous le nom des accords d'Abraham en 2020. Il s'inquiète du fait que ce partenariat stratégique entre le Maroc et le régime sioniste renforce l'aviation militaire marocaine à travers le développement et la production de drones kamikazes. Ces dernières années, Rabat a engagé un processus de renouvellement et surtout de modernisation du matériel et des équipements des forces armées royales, dont les principaux fournisseurs sont la France et les États-Unis, et qui inclut désormais Israël. À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé les Marocains à descendre dans la rue à travers le Maroc. Selon Arabie 21, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé dans un communiqué publié jeudi 18 novembre sur sa page Facebook tous ses branches et organes constitutifs, tous les militants et citoyens, hommes et femmes, à participer aux protestations qui seront organisées dans différentes villes et régions dans le pays le lundi 29 novembre 2021. Le Front a confirmé qu'une tribune centrale serait organisée à Rabat devant le Parlement et que ses autres branches lanceraient des appels séparés à ce sujet afin de préciser les lieux où se dérouleront les manifestations. Cette initiative est un signe de soutien à la lutte menée par le peuple palestinien pour libérer ses terres des mains du sionisme ainsi qu'à la mise en place d'un État démocratique sur tout le sol palestinien avec Rots pour capitale, indique le communiqué. Et d'ajouter: cette initiative prouve comment les Marocains s'opposent à une normalisation de relations avec l'entité sioniste usurpatrice et démontre qu'ils réclament l'abolition de l'accord de normalisation ainsi que celle de tous les accords qui en émanent.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Les négociations portant sur la levée des sanctions injustement imposées au peuple iranien vont avoir lieu le 29 novembre à Vienne. C'est dans un tel contexte que le président iranien Ebrahim Raisi a annoncé que l'Iran avait désormais accès à ses avoirs financiers dans deux trop pays. Et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, de négociateur en chef du côté de Téhéran, a déclaré que l'avenir de ces négociations dépend d'une volonté sérieuse de lever toutes les sanctions injustement imposé au peuple iranien. Et c'est toujours dans ce contexte que l'Iran a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique à s'abstenir de tout propos hâtif ou politiquement motivé sur les activités nucléaires iraniennes. C'est de ce sujet qu'on va vous en parler dans le cadre de l'émission débat d'aujourd'hui avec deux analystes politiques et spécialistes des questions internationales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Plus d'actions concrètes en échange des promesses de monts et merveilles. Voici une phrase qui peut bien résumer l'approche du gouvernement d'Ebrahim Raisi vis-à-vis de tout dialogue avec l'Occident. Pas de dialogue, sous pression. Le 4 septembre, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que la reprise des négociations pour la levée des sanctions était bien à l'ordre du jour de son gouvernement, mais qu'elle ne pouvait pas se tenir dans un contexte de pression. « Nous ne sommes pas pour un dialogue dans le vide », a ajouté M. Raisi. « Le dialogue que nous cherchons est celui pouvant aboutir à un résultat concret, qui est la levée des sanctions », a-t-il indiqué. Les choses ont changé et tout dialogue avec l'Iran demande des préalables. Voici le message destiné à l'Occident que Raisi a envoyé à plusieurs reprises et sous différentes formes. Lors d'un entretien télévisé diffusé en direct le 2 octobre dernier par la télévision iranienne, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré que les Américains devraient débloquer une partie des fonds de l'Iran s'ils voulaient faire preuve de leur véritable volonté. Lors de mon séjour à New York, pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations unies, les Américains montraient des signes favorables au dialogue, mais ils devraient débloquer une partie des fonds de l'Iran s'ils veulent faire preuve de leur véritable volonté. De son côté, Ali Borelli, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour le département politique, a annoncé le 3 novembre sur son compte Twitter que les négociations de Vienne destinées à la levée des sanctions illégales des États-Unis débuteraient le lundi 29 novembre. Reste à savoir si les Américains débloqueront 10 milliards de dollars des fonds de l'Iran, comme Amir Abdullahian l'avait demandé avant le 29 novembre.
Merci, merci infiniment d'avoir choisi cette émission, le débat pour l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi depuis Damas, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est un analyste politique et spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Narostine, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Arnaud Devollet.
Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet de ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les autres parties signataires de l'accord nucléaire de 2015. L'Iran fait preuve de fermeté. L'Iran insiste sur la levée totale des sanctions qui lui sont injustement imposées, surtout par les États-Unis. Comment évaluez-vous ce qui se passe actuellement entre l'Iran et l'Occident avant, si vous voulez, l'ouverture des négociations prévues pour le 29 novembre, s'il vous plaît?
Bien, malgré certaines réticences de presse, nous pensons que, nous estimons, disons, que ces pourparlers sont cependant dans une atmosphère bien plus favorable que ce qu'était jusqu'à présent. Il semble que, non pas le bon sens, mais disons un certain sens de la réalité quand même, l'ait emporté et que nous en voulons pour preuve de choses. D'abord, les derniers entretiens par vidéo, je crois, entre lundi dernier, le président chinois et le président américain, dans lequel il a été question de la puissance atomique de l'Iran, et il semble que, disons, quelles que soient les attitudes des uns et des autres, une volonté de régler cette question sur le plan du droit, strictement juridique, soit en cours. Évidemment, il y a des forces qui s'y opposent. Mais je voudrais rappeler, en préalable à tout ceci, que l'Iran développe là une attitude, pour sa part, qui n'est pas une attitude partisane, mais une attitude entièrement patriotique. Je rappellerai, parce que l'auteur de cette formule vient de mourir, je crois, en Suisse, c'est le fils très connu du général Zaidi, autrefois, qui a joué un rôle, vous savez, dans l'époque de Mossadegh et autres, qui avait été même déporté par les Anglais en 1941 en Palestine parce qu'il le trouvait trop rebelle. Eh bien, ce Zaidi, qui a été le dernier ambassadeur du régime du Shah aux États-Unis, avait dit dans une conférence donc de d'août 2006 que c'était un droit inaliénable de l'Iran à être une puissance atomique. Et disait, compte tenu, bien sûr, des traités de non-prolifération nucléaire. C'est donc ce droit inaliénable qui quand même devrait sauter aux yeux des grandes puissances. Qu'est-ce que nous pouvons objecter à ceci, nous qui avons une puissance nucléaire en plus, que peuvent objecter les Chinois, les Russes, les Américains et même l'entité sioniste qui, comme le sait depuis Mordechai Ben, nous savons très bien qu'elle est équipée aussi, alors elle, d'armement proprement nucléaire. Voyez-vous, je crois que les nécessités économiques, le trouble dans lequel le monde est, font que, disons, les réalités doivent l'emporter sur des esprits trop partisans. Et je crois que c'est dans ce vent des négociations qui souffle.
Merci beaucoup, monsieur de Dorsier. Vous l'avez dit, en fait, le régime israélien est le seul régime au Moyen-Orient qui détient, si vous voulez, l'arme nucléaire, qui détient, si vous voulez, un arsenal nucléaire le plus redoutable militaire. D'ailleurs, mais s'agissant de l'Iran, il faut en fait le préciser que les autorités iraniennes, les plus hautes autorités iraniennes, l'ont en fait dit à maintes reprises que l'arme nucléaire n'a aucune place dans la doctrine défensive de l'Iran. Il y a même, si vous voulez, un décret religieux, une fatwa de la part, si vous voulez, du leader de la révolution islamique qui, en fait, interdit la production et le stockage, si vous voulez, de l'arme nucléaire. Mais l'Iran insiste sur son droit d'avoir accès à un programme nucléaire civil, à, si vous voulez, avoir accès à un programme nucléaire à des fins civiles. Et sur ce point, il n'en est pas du tout question pour l'Iran de renoncer à ses droits, M. Dorsier. Bon, on va partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnaud de Volley. Maître de Volley, votre en fait lecture sur ce qui se passe actuellement entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire, de tant que plus que on a l'impression que cette insistance du côté de Téhéran sur ses droits commence, si vous voulez, à apporter ses fruits, monsieur de Volley.
Oui, je dirais que ces arrière-négociations sur la reprise des négociations, parce qu'en fait, c'est un processus, dans un processus plus large, qui vraiment laisse entendre que l'Iran ne peut être perçu que comme la partie la plus patiente dans ce processus, et cela participe aussi probablement à cette guerre hybride et cette stratégie qui vise à provoquer l'Iran à faire une erreur qui permettrait ensuite à des comploteurs de pouvoir se targuer, de dire « Voyez, on vous avait dit que tout cela n'était qu'une perte de temps. Hein. » Donc l'Iran a très bien compris effectivement où sont ses intérêts, a très bien compris la psychologie non seulement des parties contractantes, mais aussi des parties influentes, parce qu'ils sont là aussi, ces parties sont là et pèsent de tout leur poids sur ce processus. Et maintenant, il convient d'attendre de voir, parce qu'en fait, les actions comptent plus que les mots. N'oublions pas que, fondamentalement, en droit, les États-Unis devraient lever toutes les sanctions, s'acquitter de toutes les obligations contractuelles qui figurait dans l'accord originel de juillet 2015, et non pas d'un côté chercher à dénaturer le fond des négociations afin d'y incorporer des volets qui porteraient sur des sujets absolument autres que celui de la capacité pour l'Iran à pouvoir. Et vous l'avez dit, et c'est très important de le souligner, pour bénéficier de l'usage, du développement de son industrie civile, je dis bien civile, dans le sens où le traité de non-prolifération, le régime de non-prolifération, le fait que l'Iran ait déclaré ses activités et donc signé ensuite ce traité, lui permet effectivement, et ceci sans même un accord nucléaire quelconque, de procéder de cette sorte. Si l'Iran a accepté de participer à ces négociations à partir de, on va dire, de 2012-2013, c'était pour garder, si je puis dire, préserver un cadre de négociation et d'apaisement des tensions dans la région. Mais les agences américaines elles-mêmes ont souligné et répété à maintes reprises, et on parle de cela, de cette espèce de papier qui est formulé tous les 4 ans par toutes les agences de renseignement américaines, et 2003, 2007, 2011, à chaque fois, et alors même que les tensions étaient au plus haut, on va dire, vers 2007-2008, alors qu'il était question, on le sait maintenant, que sous l'impulsion de l'ancien vice-président Cheney, une action militaire soit entreprise contre l'Iran. Il n'y avait absolument aucune trace de ce que les provocateurs aiment mettre en avant, à savoir une capacité selon laquelle l'Iran pourrait développer une arme nucléaire dans les 3 mois, dans les 6 mois. Ça fait des années qu'on entend cette petite musique. On a eu des présentations plus ou moins répétées de manière loufoque l'Assemblée générale des Nations Unies. Et on s'aperçoit finalement que l'Iran a toujours été constant. Maintenant, il reste à effectivement poursuivre un processus qui reste extrêmement compliqué et extrêmement semé d'embûches, où il faudra, et on a encore vu cette semaine, le directeur de l'Agence internationale atomique essayer de laisser entendre qu'il était, je cite, « extrêmement difficile d'avoir accès aux activités qui pourraient avoir lieu dans les centrales nucléaires en Iran, alors même que le processus de résomption du traité sont en cours. Donc, l'Iran, dans le cadre de l'accord en cours, avait tout à fait le droit de mettre un terme, effectivement, à désactiver les caméras qui figurent au sein des centrales nucléaires. Donc, il faut surtout éviter de tomber dans ces provocations. Visiblement, le directeur de l'AIEA était dans un rôle où il est sous pression lui-même, mais ce n'est rien de nouveau. Beaucoup des agences onusiennes sont sous pression politique, que ce soit l'Agence pour la prohibition des armes chimiques, que ce soit l'agence en question qui porte sur le contrôle des installations nucléaires, tout le monde est plus ou moins sous pression permanente pour essayer, encore une fois, de mettre en avant des soi-disant motivations profondes de l'Iran, alors que l'Iran ne veut juste que l'accord soit impliqué à tel qu'il a été conclu et cristallisé en droit international. Avec la résolution 2231 enregistrée auprès du secrétariat général des Nations Unies.
Merci beaucoup, Maître de Velay. Monsieur Dortiguier, vous l'avez dit, vous l'avez en fait évoqué tout à l'heure, cet entretien téléphonique entre les présidents chinois et américains, l'Iran a été au menu, si vous voulez, de leur entretien, mais s'agissant, Monsieur Dortiguier, de ces prochains pourparlers à Vienne, et la Russie, la Chine, tout comme l'Iran, estime que voilà, la partie fautive, ce sont les Américains, c'est les États-Unis, et il revient à la partie fautive, c'est-à-dire les États-Unis, s'ils voulaient de revenir à leurs engagements. Et l'Iran, lorsqu'il a décidé de réduire ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire, l'a dit clairement que voilà, il s'agit de mesures réversibles. Et une fois les autres parties, en fait, une fois, si vous voulez, les engagements pris par d'autres parties constatés, l'Iran, en fait, peut également de revenir, si vous voulez, à ses engagements. C'est pourquoi, M. Dortiguier, on a l'impression qu'il y a une communauté de vues entre l'Iran, la Russie et la Chine, comme quoi ce sont les Américains qui devront, en fait, revenir tout d'abord, dans un premier temps, à leurs propres engagements, M. Dortiguier.
Oui, en effet. Il est certain que les Américains sont considérés comme peu, disons, maîtres d'eux-mêmes dans cette affaire-là. À savoir qu'ils ne voient pas les choses comme elles sont, ils ne voient pas ce qu'ils ont signé, ils le comprennent très bien naturellement, mais ils sont soumis à des pressions, il faut le dire, extérieures et certainement intérieures, bien sûr, et qui viennent bien sûr de partis qui sont, peut-être des partis du sionisme ou autres, qui ont intérêt non pas à ce que les Américains engagent telle ou telle action, mais restent toujours dans une turbulence, si vous voulez, dans une sorte de, d'instabilité dans leur relation avec l'Iran. Je ne définirais pas mieux cette relation entre les États-Unis, l'Iran et puis même les autres puissances que vous citez, la Russie, la Chine. Je crois que les Américains sont partagés entre le réalisme, je reprends ce mot, qui est quand même qui a toujours été un critère de leur conduite, qui a assuré même la prospérité américaine, dans le bon sens du terme, la qualité du travail américain. Ça, c'est un premier fait. Mais les Américains sont entravés dans leurs décisions. Alors, bien sûr, ils ont leurs responsabilités, mais il faut qu'eux-mêmes aient le courage, disons, de passer au-dessus des chantages qui leur sont faits, et exercer essentiellement, on peut dire, par l'entité sioniste. On ne peut pas, disons, historiquement, on ne peut pas le nier. Et alors, je crois que la situation internationale, surtout économique et financière, oblige justement à ce que j'appelle cet effort de réalisme commun entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Et je crois que c'est justement cette crise internationale, cette crise financière, cette instabilité, si vous voulez, économique, qu'il faut régler, qui pourrait encourager les Américains justement à écouter, à prendre confiance en eux-mêmes, disons, sur les conseils de gens qui ne sont pas seulement des rivaux, mais qui sont des partenaires économiques. On peut dire les choses comme ça, à savoir la Russie et la Chine. Je crois qu'il y a une entente, c'est une suggestion que je fais, une entente recherchée par les Américains avec ce qu'on peut appeler l'Orient, enfin, c'est-à-dire les anciens États communistes, qui le sont restés un peu quand même. Enfin, disons, qui essaient d'évoluer aussi selon des critères modernes. Et je crois que cette tendance-là, elle ne peut que triompher. C'est pour ça que tout est de la part de l'Iran, comme des partenaires de l'Iran, une question, je crois, de courage, une question d'indépendance. L'Iran montre, à notre avis, des signes de maîtrise, de soin. Il dit exactement quel est son droit, ce droit qui a d'ailleurs été reconnu en 2015. Mais d'autres succès dans d'autres domaines, en particulier la fin ou le ralentissement des luttes en Syrie et au Yémen, par exemple, peuvent aussi, contribuer à ce que le bon sens l'emporte sur les professionnels de l'agitation.
Merci beaucoup. Maître de Volley, est-ce que vous aussi, tout comme M. Dortiguet, vous estimez qu'il faut que les Américains, les États-Unis, se rendent à l'évidence, et pour ce faire, les États-Unis devront faire preuve de courage, de réalisme et de ne pas laisser, par exemple, M. Dortiguet a fait allusion au régime israélien et également d'autres régimes, peut-être dans la région, de ne pas laisser, si vous voulez, faire chanter par ces acteurs également.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est probablement le fond de l'affaire quand on y réfléchit, parce qu'effectivement, le pragmatisme protestant a toujours défini le l'ithos américain, si je puis dire, états-unien, on devrait dire. Et en cela, cette tendance lourde à laquelle nous assistons depuis l'assassinat de Kennedy, mais de plus en plus de manière prononcée depuis, on va dire, les années Reagan, fait qu'aujourd'hui, on a un département d'État complètement contrôlé par les néoconservateurs, que ces néoconservateurs au Pentagone, et que du réseau Epstein, que les services secrets israéliens contrôlent la classe politique américaine au travers de chantages divers et variés, ce qui laisse entendre qu'ils ont des moyens de pression, c'est certain, et que il faut vraiment rester très prudent parce que la pénétration est tellement profonde et tellement pervasive, comme on dit, c'est un anglicisme, mais pernicieuse, je devrais dire, que dans ce contexte-là, il est difficile de penser qu'on puisse toujours s'en remettre exclusivement au bon sens, si je puis dire, au bon sens protestant, bien compris. Sachant que eux-mêmes, dans ce contexte-là, pour des raisons de politique interne, il y a un électorat qui partage une compréhension de l'eschatologie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu comprendre des Écritures, en ce qui concerne en tout cas la religion chrétienne, et au contraire, on est On est plutôt dans une... Et ça aussi, ça fait l'objet d'une manipulation et d'une simulation par le lobby sioniste, bien qu'il cultive cette conversion.
Merci.
Et qui permet de tirer des conclusions comme quoi de cet électorat et pourrait effectivement, à la faveur des élections beaucoup. Qui sont tous les deux ans, obtenir cette convergence entre les intérêts sionistes et les intérêts évangélistes.
Maître Arnaud Devollet, Pierre Dortiguier, je vous remercie tous les deux d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas et depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Et je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a mis en garde la communauté d'élite scientifique iranienne contre la guerre douce menée par les puissances coloniales dans le but de rendre des nations indifférentes ou ignorantes envers leurs talents et de préparer le terrain au pillage des ressources des nations. Le guide suprême de la révolution islamique est revenu sur le livre de mémoire de Jawaharlal Nehru, l'une des figures de proue de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, et dit « Il reconnaît les efforts directs et indirects des Britanniques » pour effacer le sentiment de confiance en soi du peuple indien et sa conviction en ses propres capacités intellectuelles. Ces deux derniers siècles, les colonialistes et les dirigeants qui leur ont été infaudés n'ont cessé de distiller ce sentiment d'incapacité et ce ne fut que la révolution islamique qui y a mis un terme, a-t-il souligné. L'honorable Ayatollah Khamenei a averti qu'une partie importante de la guerre douce qui est à et a toujours été mené par les colonialistes, consiste à rendre une nation ignorante et indifférente envers ses talents et de la pousser à nier ses talents. Lorsqu'une nation est dans un état d'ignorance par rapport à ses propres capacités, il devient facile pour les colonialistes de piller les ressources de cette nation, car l'ignorance et le pillage vont de pair, a souligné le guide suprême de la révolution et islam. L'Iran appelle l'ONU à déployer des efforts pour empêcher l'effondrement total de l'économie afghane. L'ambassadeur iranien représentant permanent auprès des Nations Unies a appelé au déploiement des efforts pour empêcher l'effondrement total de l'économie afghane. Majid Tartelavanchi a ajouté que le sol afghan ne devrait jamais être utilisé pour des activités terroristes. La fourniture en temps opportun d'une aide humanitaire et la libération des avoirs d'Afghans gelés, indispensables pour relancer l'économie afghane et sauver des vies, ne doivent en aucun cas être politiques ou conditionnels, a poursuivi Tartelavanchi. Et de conclure, la République islamique d'Iran continuera de dialoguer avec toutes les parties en Afghanistan, y compris les talibans. Dans le même contexte, l'ONU a averti que la situation actuelle en Afghanistan, marquée par une grave crise économique, menaçait d'accroître le risque d'extrémisme. La détérioration continue de l'économie formelle donnera une impulsion à l'économie informelle, y compris aux drogues illicites, aux flux d'armes et à la traite des êtres humains, a précisé l'émissaire de l'ONU dans de ce pays au Conseil de sécurité, qui a vu l'ambassadeur afghan nommé par les autorités déchu et critiqué vertement les talibans. Les tentatives de certains pays de désunir la Russie et la Chine ne feront que pousser ces deux États à resserrer leurs liens, estime Vladimir Poutine, président russe, qui déplore en même temps la réduction des possibilités de coopération avec les pays européens. La Russie et la Chine élargiront leur partenariat malgré les tentatives de l'Occident de les brouiller, a déclaré le président russe lors d'une assemblée du ministère russe des Affaires étrangères. Nos relations bilatérales sont actuellement au plus haut de l'histoire. Il s'agit d'un partenariat stratégique universel. On peut les considérer comme un exemple d'une collaboration efficace entre les États au XXIe siècle. Cela ne plaît pas à tout le monde, bien sûr, à certains de nos partenaires occidentaux essaient de creuser un fossé entre Moscou et Pékin, a indiqué Vladimir Poutine. La Russie et la Chine, qui voient bien ces tentatives, ils réagissent en resserrant leurs liens politiques, économiques et autres et en continuant à coordonner leurs actions sur la scène internationale, a-t-il poursuivi. Vladimir Poutine a appelé à intensifier le rapport avec les pays de la région Asie-Pacifique. À son avis, il importe de créer un large partenariat euro-asiatique alors que le centre de gravité de la politique internationale a tendance de basculer de la région euro-atlantique vers l'Asie. Par conséquent, il est nécessaire de promouvoir les relations, les liens commerciaux et l'investissement avec les pays de l'Asie-Pacifique en se concentrant sur la mise en œuvre de notre initiative à grande échelle pour créer un grand partenariat euro-asiatique, a déclaré Vladimir Poutine. Dans le même temps, le président russe a regretté la diminution du champ de coopération avec les pays européens alors que l'Union européenne repousse Moscou par ses sanctions et accusations infondées. Quant aux affaires européennes, je ne peux que constater avec regret que les opportunités de coopération se rétrécissent, bien que l'Union européenne reste notre premier partenaire commercial et économique. La coopération auparavant fructueuse entre la Russie et l'Union européenne connaît actuellement de sérieuses difficultés. L'Union européenne continue de nous repousser par ses sanctions, actions hostiles et accusations infondées, tout en ignorant les avantages évidents de l'interaction dans les domaines politiques, économiques et humanitaires, a indiqué le président russe Vladimir Poutine. Il a réaffirmé la disposition de Moscou à maintenir des relations de bon voisinage avec les États européens, tout en appelant que tout dépend de la disposition réciproque des partenaires à établir et promouvoir une coopération équitable et respectueuse. Des étudiants et des membres du corps professionnel de l'Université de Jordanie se sont retirés d'un des séminaires organisés par la faculté de la technologie informatique de l'Université du Roi Abdallah II, car l'université a accueilli des représentants de l'Université émiratie d'intelligence artificielle Mohamed Ben Zayed qui voulait offrir des bourses aux étudiants. Le retrait est intervenu après que les étudiants aient été surpris par la coopération de l'Université des Émirats Arabes Unis avec l'Université israélienne d'Al-Quds occupée et l'Institut israélien des sciences Weizmann. Un communiqué a été publié par les forces étudiantines de l'Université de Jordanie dans lequel elles ont justifié leur position par leur refus de la normalisation, déclarant « Nous, les forces étudiantines, rejetons de manière catégorique l'accueil par l'administration universitaire de représentants de l'Université Mohamed Bin Zayed qui ont normalisé avec l'occupation. » Le communiqué a souligné qu'attirer les étudiants pour les bourses de ces universités est un acte qui contredit la position sur la normalisation au niveau des étudiants populaires et islamiques. La force étudiantine ont salué les étudiants et les professeurs qui se sont retirés du séminaire. La déclaration a indiqué que le retrait reflète la solidarité de la rue jordanienne avec les sanctuaires islamiques et la cause palestinienne et la non-reconnaissance de l'entité sioniste sous quelque forme que ce soit. Les forces étudiantines ont demandé à l'administration de l'université d'assumer ses responsabilités et de demander des comptes aux responsables de cet accueil, de présenter des excuses officielles à la rue étudiantine et de se retirer de tout partenariat qui soutient la normalisation directement ou à indirectement. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.